Borgia. Chapitre 46. Le camp de César. Aussitôt après l'entrevue de Tivoli, César Borgia, tout bardé d'acier, entouré de sa garde suisse, un régiment de solides et pesants fantassins que César avait choisi un à un, escorté d'une vingtaine de seigneurs qui composaient son état-major, avait alors donné le signal du départ. À travers les défilés des montagnes, les troupes formaient un immense serpent qui ondulait, hérissé de fer. C'était, en tête, les deux régiments de piémontais, barbus, trapus, les yeux féroces, chantant des chansons de mort en entrechoquant leurs courtes lances et leurs glaives à deux tranchants. Puis venaient les canons et les bombardes que traînaient des mules incessamment fouettées par d'agiles calabrais. Le long des pièces d'artillerie marchaient en bon ordre les servants, des Allemands aux statures gigantesques, aux larges barbes en éventail. Immédiatement après, venaient les halbardiers, sorte de titans que César avait recrutés dans les Flandres. Ces hommes allaient gravement, insoucieux des proches batailles, sachant à peine pour qui ils se battaient. Ils étaient suivis par le régiment des arquebusiers romains, soldats massifs. Alors s'avançait le régiment des Suisses, lourds et indifférents, chantant un ranze d'une voix monotone. Au milieu d'eux, César à cheval. Puis d'autres régiments encore, enfin la cavalerie toute luisante d'acier. Des caissons, des chariots chargés de tentes et de provisions fermaient la marche, escortés par des escadrons de cavalerie légère. Des Romains encore, montés sur de petits chevaux, n'ayant pour toute arme qu'un estramaçon et pour défense un léger bouclier. César était sombre. Une flamme brillait dans son regard. Ses narines largement aspiraient les âcres senteurs que dégageait cette foule en marche. Il se retrouvait dans son élément. Mais, malgré la physique allégresse de marcher à la bataille, malgré l'orgueil qui lui venait par bouffées lorsque, du haut de quelques sommets, il embrassait d'un coup d'œil le rude spectacle de son armée, malgré la certitude inébranlable dans son esprit d'une victoire qui allait le faire roi, César était sombre. Deux noms revenaient sans cesse à son esprit, Ragastens et Primevère. Derrière lui, ses courtisans ordinaires causaient joyeusement de la campagne qui s'ouvrait. César entendait leurs propos et parfois les approuvait d'un mot bref. Toujours l'entretien revenait sur le pillage qui déjà se réglait méthodiquement. Parfois aussi, César rejoignait Lucrèce. Celle-ci, commodément installée dans une vaste berline, entourée d'une garde particulière, passait le temps à lire ou à rêver. Près de la portière de la berline cheminait le moine Garconio, encore pâle de sa blessure, et Lucrèce s'entretenait souvent avec lui de façon que personne ne les entendit. L'entretien de Lucrèce et du moine s'arrêtait net toutes les fois que César s'approchait de sa sœur. L'armée s'avança ainsi par étapes régulières. Un soir, après plusieurs jours de marche lente, elle s'arrêta dans une vaste plaine et dressa ses tentes en bon ordre, puis creusa aussitôt des fossés autour du camp. Au bout de la plaine s'ouvraient, parmi les rochers, les défilés qui conduisaient à Monteforte. Le lendemain soir, César voulut aller voir sa sœur et se rendit dans la tente magnifique qu'elle s'était fait installer. Mais Lucrèce n'était pas dans sa tente. Elle ne reparut pas de la nuit. Le lendemain, César dut se rendre à l'évidence. Lucrèce avait disparu. « Elle aura pris peur et aura voulu s'en retourner à Tivoli, pensa-t-il. Et il fit demander Dom Gargogno pour l'interroger. Mais on chercha inutilement le moine, également disparu.